D'habitude, quand on parle de grandes stratégies, que ce soit militaires, politiques ou même dans le monde des affaires, on a toujours cette attente d'un contrôle absolu.
Ouais, la maîtrise totale du terrain, quoi.
C'est ça. On se représente un peu la situation comme un immense échiquier. Et bah, si un camp perd sa pièce maîtresse, genre la reine par exemple...
Bah, la partie est virtuellement terminée. C'est le fameux échec et mat.
Exactement. C'est un vrai désastre stratégique. La logique pure voudrait que le camp adverse célèbre sa victoire, pendant que les partisans de la pièce capturée fuient pour se cacher.
C'est le réflexe humain de survie de base, en fait.
Oui, mais voilà, dans un texte spécifique de l'Antiquité qu'on va aborder aujourd'hui, on observe une dynamique complètement inversée. Perdre la reine, ce n'est pas la fin de la partie.
C'est même tout le contraire.
Ouais. C'est en fait le mouvement exact et pour le coup totalement contre-intuitif qui permet d'infiltrer les lignes ennemies. D'accord, décortiquons tout cela. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration détaillée en nous appuyant sur les notes d'une conférence théologique fascinante.
Une conférence donnée par le docteur Matthew S. Harmon, c'est bien ça ?
Tout à fait. Il y analyse un passage très très précis, la lettre aux Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 18a. Pour poser le décor, l'auteur, l'apôtre Paul, est en état d'arrestation.
Donc hors jeu, techniquement ?
Complètement hors jeu. Le mouvement chrétien de l'époque devrait, en toute logique, s'effondrer. Pourtant, l'analyse du docteur Harmon se concentre sur la façon dont cet emprisonnement devient carrément un catalyseur.
Ouais, et c'est ça qui est dingue.
Et c'est pour ça qu'au-delà de la stricte théologie, c'est une étude de cas vraiment vertigineuse sur la stratégie, sur la psychologie humaine et la résilience.
C'est effectivement le cœur du sujet. Le texte original, il affirme de manière assez audacieuse que cette incarcération a, je cite, « contribué au progrès de l'Évangile ».
Ce qui semble aberrant sur le papier.
Bah oui. Et pour comprendre ce paradoxe, il est vraiment essentiel de ne pas se contenter de lire cette phrase comme une simple déclaration de foi un peu abstraite.
Il faut creuser.
Voilà. Il faut analyser la mécanique historique de la situation. On doit examiner l'environnement physique et en fait tout le parcours qui a mené cet homme à cette détention précise.
Exactement, parce que pour comprendre l'impact, il faut d'abord regarder la logistique. On a très facilement ce cliché du cachot médiéval sombre, tu sais, avec des murs en pierre, de l'humidité partout, des rats.
Ouais, le vieux donjon classique, quoi.
C'est ça. Mais les archives historiques montrent une réalité factuelle qui est bien différente. Et puis le chemin pour y arriver, ce n'est pas juste une arrestation de routine au coin de la rue.
Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, le contexte chronologique et physique est vraiment déterminant si on veut évaluer la résilience psychologique requise ici.
Ça ne s'est pas fait en un jour.
Bah non, les sources retracent une arrestation initiale à Jérusalem. On est à peu près vers l'an 57 après Jésus-Christ. Ensuite, il y a carrément 3 années de détention à Césarée.
3 ans. Déjà, l'usure mentale doit être énorme.
C'est clair. Et puis, il y a ce transfert vers Rome. Et là, ça implique un naufrage, mais littéralement cataclysmique.
Digne d'un film hollywoodien, quoi.
C'est exactement ça. C'est documenté dans le chapitre 27 du livre des Actes, et c'est effrayant. Finalement, il n'arrive à Rome que vers l'an 60.
Donc tu arrives dans la capitale de l'Empire, après avoir failli te noyer, après avoir passé des années privé de ta liberté. L'épuisement moral doit être total.
Absolument. Total, ouais. Mais en fait, ce sont les conditions de sa détention à Rome qui vont complètement changer la donne.
Parce qu'il n'est pas jeté dans une fosse commune ou au fond d'un cachot impérial, justement.
Non. Le système légal romain appliquait ici ce qu'on appelle la custodia militaris.
Donc, une assignation à résidence.
Voilà, c'est ça. Concrètement, il vit dans un appartement privé.
Plutôt confortable, on pourrait se dire.
Oui et non. La subtilité, c'est que l'Empire romain ne finance absolument pas ce type d'incarcération.
Ah oui, c'est assez frais.
Exactement. Le prisonnier doit payer son propre loyer et sa propre nourriture, ce qui implique, de fait, une dépendance totale envers un réseau de soutien extérieur grâce à des dons.
Donc, il y a quand même une pression financière.
Mais la véritable contrainte, le détail crucial qui transforme cette situation en un outil stratégique redoutable, c'est qu'il est enchaîné en permanence.
24 heures sur 24.
C'est ça. Enchaîné à un garde romain, et attention, ce ne sont pas juste de simples miliciens locaux de bas étage.
Et c'est sur ce point précis que la dynamique de l'histoire bascule complètement. Le docteur Harmon souligne que cette situation devient connue de toute la garde prétorienne.
La fameuse garde prétorienne, ouais.
Pour bien mesurer l'ampleur du truc, il faut réaliser que ces gardes, c'est l'élite absolue. Ce sont littéralement les faiseurs de rois de l'époque.
Bah, ce n'est pas juste une unité de sécurité classique, en fait. C'est une force militaire d'élite qui compte environ 9000 hommes, créée initialement par Auguste.
Le gratin de l'armée.
Ouais, ce sont les gardes du corps personnels de l'empereur. Leur influence politique, elle est juste colossale. Si on regarde l'histoire romaine, ce sont eux qui assassinent des empereurs comme Caligula.
Rien que ça.
Et qui en installent d'autres, comme Claude. Donc, avoir accès à ces hommes, c'est littéralement avoir accès au centre névralgique du pouvoir impérial.
C'est fou.
Et le pire, ou le meilleur, selon comment on le voit, c'est que les rotations de garde auprès de ce prisonnier se faisaient par tranches de 4 à 6 heures.
C'est une mécanique tellement fascinante quand on y pense. C'est un peu comme un speed dating inversé.
Un speed dating inversé. J'aime bien l'image.
Ouais, franchement, le rêve absolu de n'importe quel commercial. T'imagines la scène. T'as un argumentaire à faire et ta cible, qui est un membre de l'élite politique et militaire, est littéralement enchaînée à toi pendant 6 heures.
C'est l'audience captive par excellence.
Voilà. Il n'y a pas de porte de sortie. Il ne peut pas dire « Désolé, j'ai une réunion, je dois changer de pièce ». Il y a une exposition forcée et continue au message.
L'analogie du commercial est super pertinente, ouais. Mais il faut quand même y ajouter une nuance de pouvoir qui est très forte.
C'est-à-dire ?
Bah, le garde, il représente la plus grande puissance militaire mondiale. Le prisonnier, lui, il représente une petite secte dissidente issue d'une province lointaine.
Ah oui, sur le papier, le rapport de force initial est totalement déséquilibré.
Totalement en faveur du garde. Mais pourtant, c'est l'inverse qui se produit sur le terrain.
Le fameux retournement de situation.
Exactement. L'exposition répétée, le fait d'observer le comportement du prisonnier face à l'adversité au quotidien... Tout ça finit par créer une véritable brèche psychologique.
Ça fissure l'armure.
Le texte indique très clairement que ces soldats d'élite comprennent peu à peu que ces chaînes ne sont pas du tout celles d'un criminel de droit commun.
Oui, il devait y avoir des scènes incroyables. Franchement, d'un côté, on peut supposer que certains de ces soldats étaient sincèrement captivés par les discussions.
Des débats philosophiques intenses, ouais.
Mais de l'autre, il y en avait probablement qui étaient genre tellement exaspérés d'entendre des débats théologiques ultra complexes sur un charpentier crucifié.
Qui n'en pouvaient plus, quoi.
C'est ça. Ils devaient marchander avec leurs collègues en mode « Je t'en supplie, prends mon tour de garde, je ne veux plus l'entendre ».
C'est très probable, ouais. Mais la réalité historique confirme que, bon gré mal gré, cette infiltration a fonctionné.
Au-delà de toute attente.
Et l'impact ne se limite pas à quelques conversations philosophiques au coin du feu dans un appartement. Le docteur Armand, il relève un détail qui est vraiment crucial à la fin de la lettre aux Philippiens, au chapitre 4.
Qu'est-ce qu'il dit ce détail ?
L'auteur transmet des salutations de la part de croyants, et là il précise, appartenant à la maison de César.
Waouh ! La maison de César ?
Ouais, ça désigne les fonctionnaires, les esclaves impériaux, bref, les membres de l'entourage direct de l'empereur.
Humainement parlant, c'est juste un tour de force hallucinant. Un prédateur itinérant, même avec le meilleur réseau ou les meilleurs arguments du monde, n'aurait jamais pu obtenir un laissez-passer pour entrer dans le palais palatin.
C'est impossible, on ne rentre pas comme ça chez l'empereur.
Et encore moins s'adresser à sa garde personnelle. Rome pense neutraliser un leader gênant en lui mettant des fers, mais en fait, elle lui fournit un accès sécurisé et interrompu à son propre commandement central.
C'est le comble de l'ironie.
Les chaînes physiques deviennent littéralement le réseau de diffusion.
C'est vraiment le paradoxe de la contrainte dont on parlait. En voulant limiter la portée du message, le système impérial a créé de toutes pièces un goulot d'étranglement qui a forcé le message à se concentrer sur les cibles les plus influentes possibles.
Mais là où il y a un problème de logique pure, ou en tout cas un mystère, c'est quand on observe l'effet papillon de cette infiltration sur la communauté à l'extérieur de Rome.
Ouais, la réaction des autres croyants.
Le texte source observe que la majorité de ces croyants locaux, au lieu d'être terrifiés de voir leur leader arrêté,
ce qui serait normal,
deviennent, je cite, « beaucoup plus hardis pour annoncer la parole sans crainte ».
Le conférencier fait d'ailleurs le lien avec un autre passage super intéressant dans Acte 4.
Ah oui ?
Oui, où une dynamique similaire s'opère. La persécution n'engendre pas la peur. Elle engendre directement une demande pour une hardiesse accrue.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça me pose question. Si on analyse ça d'un point de vue strictement comportemental ou même sociologique, c'est complètement contre-intuitif.
C'est pas logique, on est d'accord.
Bah non. Si je fais partie d'un mouvement naissant, qui est déjà marginalisé, et que je vois la figure de proue de mon groupe se faire arrêter par la superpuissance absolue de l'époque, bah ma réaction de survie basique, c'est de faire profil bas, quoi.
Tu te caches, tu te fonds dans le décor.
Je fuis, je me fonds dans la masse pour surtout pas être le prochain sur la liste. Du coup, pourquoi est-ce qu'une énorme démonstration de force de l'Empire, ça déclenche soudainement une vague de prise de parole publique chez des citoyens ordinaires?
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'explication se trouve dans une nuance linguistique très, très précise.
Une nuance dans le texte original?
Ouais, que le docteur Harmon décortique vraiment bien. Le passage ne dit pas que ces individus ont soudainement trouvé, en eux-mêmes, un réservoir caché de courage personnel ou de bravoure humaine.
D'accord. Donc ce n'est pas un élan d'héroïsme à la hollywoodienne?
Pas du tout. Le texte affirme qu'ils sont devenus confiants dans le Seigneur à cause de ses chaînes. Et cette distinction, elle est fondamentale pour comprendre la psychologie du groupe.
Donc, psychologiquement, ce n'est pas un sursaut de bravoure interne, c'est une validation externe.
Exactement. Leurs chaînes, au lieu de prouver la toute-puissance écrasante de Rome, elles ont en fait prouvé son impuissance à arrêter le message.
En joie.
En observant que l'Empire, avec toute sa machine de guerre et sa force coercitive, ne parvenait pas à faire taire un seul homme.
Et qu'au contraire, cet homme était en train de convertir l'élite militaire même de cet empire.
C'est ça. La communauté a perçu là une preuve tangible d'une souveraineté supérieure. Du coup, ce n'était plus du tout une question de braver l'empereur avec leurs propres petites forces humaines.
C'était soutenu par autre chose.
C'était la conviction profonde, viscérale, que le mouvement était porté par une force que Rome ne pouvait tout simplement pas maîtriser. L'outil d'intimidation, il s'est retourné contre son propre créateur pour devenir un validateur psychologique surpuissant.
Mais c'est génial! C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un effet Streisand avant l'heure, en fait.
Oui, tout à fait.
Plus l'autorité tente de censurer ou de contraindre, plus elle signale au monde que le message est puissant, dangereux et digne d'intérêt.
C'est le meilleur coup de pub possible, finalement.
Mais l'analyse du docteur Harmon ne s'arrête pas à cette vision un peu idéalisée et romantique, genre la communauté unie main dans la main face à l'oppression. Et c'est là que le réalisme du texte frappe vraiment fort, je trouve.
Ah bah la nature humaine reprend toujours le dessus.
Parce que toute cette audace nouvelle qu'on vient de décrire, elle n'était pas motivée par de pures intentions chez tout le monde.
Non. Et le texte se montre d'une honnêteté brutale sur la dynamique interne du mouvement à ce moment-là. Il identifie très clairement deux groupes distincts qui prennent la parole à Rome.
Il y a les bons et les moins bons.
Voilà. Le premier groupe agit par bonne volonté, par amour. Eux, ils ont compris la portée stratégique de l'emprisonnement de Paul et ils veulent l'aider.
Mais le second groupe?
Le second groupe agit, et ce sont les termes précis du texte, par envie et esprit de dispute.
Envie et esprit de dispute. C'est fou. On a presque un scénario d'influenceurs opportunistes si on transpose ça à notre époque. Hein.
Les vautours qui tournent, quoi.
La dynamique est tellement limpide. T'as le leader charismatique qui captait toute la pension, tous les regards, et soudainement, bam, il est assigné à résidence. Il est hors circuit sur la place publique.
La place est libre.
Exactement. D'autres acteurs y voient immédiatement une brèche de marché. Ils se disent que c'est le moment idéal pour capter son audience, pour se hisser tout au sommet de la hiérarchie locale.
C'est la course à l'ego, clairement.
Et le conférencier note même un truc hallucinant. Certains espéraient sincèrement que leur activisme bruyant allait provoquer les autorités romaines et du coup aggraver la situation pénale du prisonnier. C'est du carriérisme poussé à son paroxysme.
C'est d'une toxicité absolue, ouais. Une vraie rivalité nourrie par l'ambition personnelle la plus crasse. Et c'est ça, c'est précisément ça qui rend la réaction de l'auteur si frappante.
Il ne s'énerve pas?
Non. Face à ses concurrents hostiles qui utilisent son propre message pour asseoir leur ego, l'auteur répond par un pragmatisme absolu, presque glacial.
Qu'est-ce qu'il dit en substance?
Il écrit en gros « Qu'importe la motivation, de manière feinte ou sincère, Christ est annoncé et je m'en réjouis ». Et là, le docteur Harmon insiste sur le fait qu'il faut absolument mettre cette réaction en contraste avec une autre lettre du même auteur.
Laquelle ?
Celle adressée aux Galates. Si on relie cela à une perspective plus globale, la différence d'approche est flagrante.
Oui, parce que, attendez, il y a quand même une contradiction apparente ici. Si on se souvient bien, dans l'épître aux Galates, il est absolument intraitable.
Mais vraiment radical.
Il va jusqu'à prononcer des anathèmes, donc des malédictions, contre ceux qui prêchent. Du coup, pourquoi cette tolérance soudaine, cette bienveillance presque, pour des rivaux malveillants à Rome? C'est deux poids deux mesures?
Bah, en fait, la clé réside vraiment dans la nature de la compromission.
C'est-à-dire?
Dans le cas des Galates, si on regarde le chapitre 1, versets 8 et 9, on voit que c'est le contenu même du message qui est altéré.
Ah, d'accord. Le message lui-même est faux.
C'est une falsification doctrinale complète. Et là, pour lui, il n'y a aucune concession possible, c'est tolérance zéro.
Logique.
À Rome, en revanche, le contenu du message est exact et fidèle à l'original. Mais ce sont les motivations des messagers qui sont corrompues.
La nuance est énorme.
La stratégie mentale de l'auteur, elle est d'une grande rigueur. Il parvient à séparer totalement son ego de la mission globale.
Il compartimente.
Tant que l'intégrité de l'information est préservée, les intentions médiocres, jalouses ou carriéristes de ceux qui la diffusent, ça n'a pas d'importance finale sur l'objectif macroscopique.
Waouh ! C'est une gymnastique intellectuelle et émotionnelle, franchement, d'une difficulté inouïe.
Ça demande une maîtrise de soi impressionnante.
Oui, réussir à voir des gens s'approprier le travail de toute ta vie, l'utiliser pour construire leur propre notoriété sur ton dos, espérer en plus que ça te nuise, et réussir à te dire sereinement « Ok, le concept avance, donc c'est une victoire ».
C'est un détachement total.
Un détachement de son propre statut. Et d'ailleurs, puisque l'intégrité de ce fameux message est vraiment la seule ligne rouge, la conférence aborde ensuite la question de sa défense rationnelle.
Tout le volet sur l'apologétique, ouais.
Voilà. Comment on fait pour faire accepter une idée pareille à des citoyens de l'Empire romain ou même d'ailleurs à des contemporains très rationnels d'aujourd'hui?
Le docteur Harmon entre ici dans le domaine pur de l'apologétique, donc l'art de défendre intellectuellement une conviction, et il développe un concept crucial, celui des croyances bloquantes.
Les fameux freins.
C'est ça. L'idée que pour faire avancer un message, il faut savoir identifier et déconstruire les objections rationnelles qui servent de mur de défense chez la personne en face.
Et la trouvaille de sa conférence, c'est ce qu'il révèle sur la nature profonde de ces objections, n'est-ce pas?
Exactement. Et pour expliquer cette mécanique, il s'appuie sur une anecdote personnelle qui est assez révélatrice.
Ouais, l'histoire sur le campus.
Absolument. Il relate son expérience quand il était jeune animateur sur un grand campus universitaire américain très séculier.
Donc un public difficile.
Très. Son quotidien, c'était d'échanger avec des étudiants brillants, très instruits, qui lui présentaient en continu des objections intellectuelles hyper complexe sur la fiabilité historique, sur la philosophie, sur la science.
Le genre de débat sans fin où chacun campe sur ses positions.
Voilà. Et au fil de ces centaines de débats, il a fini par élaborer une approche super intéressante pour tester la validité réelle de ses objections. Face à un étudiant qui empilait les questions rationnelles les unes après les autres, il introduisait une question pivot.
Il arrêtait carrément le débat technique, c'est ça?
Il mettait le débat sur pause, ouais.
Pour demander un truc du genre, de manière purement hypothétique, si je pouvais fournir une réponse complète, logique et parfaitement satisfaisante à chacune de tes interrogations intellectuelles là maintenant, est-ce que tu t'engagerais à adhérer à ce message?
C'est ça, c'est le test ultime.
Et la réaction?
Eh bien, la réponse de ces étudiants brillants, c'était presque invariablement un silence, une hésitation, suivie d'un petit non.
Ah ouais, donc le problème n'était pas intellectuel du tout?
Pas du tout. Ce qui permettait au docteur Harmon d'embrayer sur la véritable question. Écoute, si toutes tes conditions intellectuelles sont remplies et que tu refuses toujours, qu'est-ce qui te retient réellement?
La vraie question qui fâche.
Exactement. Et là, il note que la réponse touchait presque à chaque fois un refus de changer de style de vie, un refus de se soumettre à une autorité morale externe ou simplement la volonté de garder le contrôle total de sa propre vie.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie fondamentalement sur notre façon de débattre, même aujourd'hui?
Qu'on se trompe souvent de cible.
C'est exactement comme un patient dans le cabinet d'un médecin.
L'analogie du médecin, j'adore.
Oui, imagine. Le patient souffre d'une maladie, il va mal, et le médecin lui tend le remède parfait sur son bureau. Mais là, le patient commence à débattre. Il dit « le comprimé est trop gros, la couleur de la pilule ne m'inspire pas confiance, l'emballage est mal conçu, et franchement, je doute de la méthode de fabrication de ce laboratoire. »
Il cherche des excuses, quoi.
Le médecin, il peut passer des heures à démontrer la composition chimique du truc sur un tableau blanc, ou même proposer le remède sous forme de sirop pour que ça passe mieux. Le patient trouvera toujours un nouveau défaut conceptuel.
C'est sans fin.
Et pourquoi? Parce que la réalité inavouable, la vraie réalité, c'est qu'il ne veut pas guérir.
Ça demande trop d'efforts.
Peut-être qu'il aime bien l'attention que sa maladie génère autour de lui, ou alors il craint les responsabilités d'une personne en bonne santé. Du coup, toutes ces objections techniques, aussi sophistiquées soient-elles, ce ne sont que des écrans de fumée.
L'expression « écran de fumée » résume parfaitement la thèse du docteur Harmon ici.
On se cache derrière son intellect.
Les objections intellectuelles, attention, elles sont réelles et elles méritent parfois un traitement très rigoureux, mais dans les faits, elles servent très souvent de bouclier de protection pour la volonté.
C'est très bien dit, ça.
L'intellect agit simplement comme l'avocat d'une volonté qui a, en fait, déjà pris sa décision en amont.
L'avocat de la volonté.
Le conférencier résume ça par une formule super percutante. On ne peut pas argumenter intellectuellement pour faire entrer quelqu'un dans le royaume, parce que la racine du blocage est rarement un déficit d'information, mais plutôt un conflit de souveraineté personnelle.
Cette grille de lecture lucide sur la nature humaine, sur les rivalités internes qu'on a vues et sur ces mécanismes de défense psychologique, bah tout ça, ça nous amène directement à la leçon d'application majeure de cette conférence.
Le grand changement de paradigme.
C'est ça. C'est le moment où le paradigme même de la souffrance et de l'obstacle est complètement redéfini.
Prenons vraiment le temps d'observer le bilan de l'apôtre Paul de manière purement objective.
Faisons le compte.
On a un bâtisseur d'organisation extrêmement talentueux, qui est littéralement à l'apogée de sa capacité d'influence, et qui se retrouve stoppé net dans son élan.
Brisé en plein vol.
5 longues années consécutives perdues, entre guillemets, dans les méandres du système judiciaire romain, en résidence surveillée, entravée physiquement au quotidien.
N'importe quel observateur extérieur qualifierait ça de désastre total, ou de gaspillage monumental de potentiel humain.
C'est clair. Et la réaction humaine standard face à un tel mur, c'est quoi, Nathan? C'est de s'enliser dans la question du pourquoi.
Pourquoi moi ?
Pour et tous, soyons honnêtes.
Or, l'analyse démontre que l'auteur refuse catégoriquement cette perspective. Il substitue au pourquoi, qui est super paralysant, un comment qui est hyper proactif.
La question change.
La question qui guide toute son action devient comment cette circonstance spécifique, aussi restrictive soit-elle aujourd'hui, va-t-elle être exploitée pour faire avancer la mission ?
Il cherche le levier.
Il évalue sa réalité entière à travers le prisme de l'avancement de son message.
Et pour systématiser ça, le docteur Harmon propose même une matrice d'application à 4 niveaux, je crois.
Oui. Il suggère d'évaluer ce que cette histoire nous oblige à penser, ce qu'elle nous invite à croire, ce qu'elle nous pousse à désirer, et finalement ce qu'elle dicte de faire.
Cela soulève une question importante sur la hiérarchie de nos priorités face à l'adversité, en fait. Le texte indique très très clairement que le confort personnel, la liberté de mouvement ou même la réputation, ce ne sont pas les objectifs finaux.
C'est une remise en question complètement frontale de notre quête perpétuelle de confort.
Ah, ça pique un peu.
Dans cette vision du monde, l'adversité, les chaînes ou les échecs apparents ne sont pas nécessairement des anomalies du système ou, tu sais, des punitions divines.
C'est pas un bug de la matrice.
Non. Ce sont très souvent les moyens stratégiques, bien qu'hyper inconfortables, on est d'accord, prévus pour atteindre des sphères d'influence ou provoquer des changements qui, autrement, seraient restés totalement inaccessibles par des voies normales ou faciles.
L'obstacle est la stratégie.
Exactement. L'obstacle est le chemin.
C'est un modèle mental d'une puissance rare, qu'on soit dans un contexte théologique ou même purement laïque, entrepreneurial ou autre. Face à un mur professionnel, un projet qui s'effondre du jour au lendemain, ou une contrainte physique inattendue, l'instinct de base, c'est d'y voir un point final.
Le fameux « c'est fini ».
Mais en adoptant la logique de ce texte antique, l'obstacle se transforme en pivot. Ce n'est pas un arrêt brutal de l'énergie, c'est un entonnoir qui redirige violemment, parfois douloureusement, cette énergie vers un public inattendu, vers une innovation forcée.
Ça canalise la pression pour la rendre utile.
C'est ça. Hein, c'est ce qui transforme une simple assignation à résidence en une masterclass absolue d'infiltration d'un empire.
C'est toute la force de frappe de cette analyse. Elle nous exige vraiment de dissocier le succès de la facilité. Le progrès véritable, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est l'utilisation stratégique de ces mêmes contraintes.
Donc, pour faire un peu la synthèse de cette exploration approfondie aujourd'hui, nous avons observé comment le système coercitif romain, en exigeant d'un prisonnier qu'il s'auto-finance tout en l'enchaînant à l'élite de la garde prétorienne,
a construit à son insu le cheval de Troie parfait.
Le cheval de Troie parfait, c'est exactement ça. Un réseau d'influence directe vers le sommet absolu de l'Empire.
Et nous avons compris que la peur, qui était pourtant espérée par les autorités pour calmer tout le monde, elle s'est métamorphosée en assurance.
La communauté trouvant finalement dans l'incapacité de Rome à stopper l'idée, une validation externe massive de sa propre croyance.
Et puis on a aussi déconstruit, avec l'aide du docteur Harmon, les mécanismes humains les plus tenaces, quoi.
Ouais, la jalousie, l'ego.
La nécessité, tu vois, de tolérer les motivations toxiques des autres, de ses concurrents. Tant que l'idée fondatrice avance.
Ne pas se tromper de combat.
Voilà. Et puis l'art de repérer les objections intellectuelles quand elles ne sont que le paravent, l'écran de fumée d'un refus de changer de vie.
La conclusion pratique de tout ça étant au final d'arrêter de chercher à comprendre pourquoi les murs se dressent devant nous, pour commencer à évaluer comment ils peuvent canaliser notre action.
C'est vraiment ça.
C'est un renversement complet de perspective. Et d'ailleurs, pour refermer cette analyse, il y a une réflexion un peu intrigante qui prolonge tout ce que l'on vient d'examiner aujourd'hui, mais à l'aune de notre réalité moderne et technologique.
Ah, intéressant, vas-y!
Dans le monde de l'Antiquité, on l'a vu, une superpuissance a utilisé des chaînes de fer forgées pour étouffer une pensée divergente et l'a créé par erreur un canal de diffusion direct et exclusif vers ses propres élites impériales.
Son propre centre de commandement?
Alors, quand on observe notre société contemporaine, tu sais, ultra numérisée, très contrôlée parfois, il y a de quoi s'interroger. Quelles sont aujourd'hui les prisons ou les chaînes que l'on considère comme des freins absolus?
Les algorithmes, peut-être?
Exactement, il y a peut-être des algorithmes restrictifs, des bulles de filtre sur les réseaux qui sont écrasantes, ou même des réglementations sociales qui semblent paralyser la libre pensée au premier abord.
Des contraintes qu'on subit tous les jours, en fait.
Mais si la dynamique de l'Empire romain qu'on vient d'étudier est toujours d'actualité, il est franchement fascinant de se demander quelles contraintes modernes, apparemment étouffantes, pourraient secrètement être en train de servir de vecteur parfait pour propager les prochaines idées radicales.
Et peut-être redessiner le monde, ouais.
Et, à terme, redessiner l'architecture de notre propre époque. Sur ce, c'est la fin de cette plongée. À très vite.